L'affaire Casalta, une enquête de guerre de l'inspecteur Gray, par Alfred Gragnon. L'inspecteur principal Poussin, comptant, au 1er février 1938, 30 ans de ce qu'on est convenu de qualifier bon et loyaux service à la police judiciaire, à Paris, avait, selon l'euphémisme lénitif également consacré, été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Bien que cette fatale échéance eût été dès longtemps prévue par le policier, il ne lui en avait pas été moins pénible d'en entendre sonner l'heure irrévocable. Une consolation morale et matérielle lui avait été cependant rapidement dévolue par son heureux destin. Le commissaire de police municipal d'une petite ville basco-béarnaise s'étant laissé mourir de vieillesse et d'inaction, Poussin avait brigué et obtenu sa succession en son emploi et il n'avait point quitté depuis 6 semaines les grisailles ambiantes du quai des Orfèvres qu'il était en place à Bédaritz, face aux riants horizons pyrénéens. Il avait tout d'abord déniché là une petite maison au toit asymétrique, dont on eût dit qu'elle était une grosse pierre blanche tombée de l'azur au beau milieu d'une pinade calme, rousse et parfumée. Il s'y était installé, comme il le fait en quelques banlieues parisiennes, avec l'aide tutélaire de l'inéluctable Amélie Poussin, sa sœur jumelle. Celle-ci devait, à une physionomie ingrate et à un caractère acariâtre, de n'avoir jamais pu, à 50 ans passés, consacrer son accablant dévouement à quelque autre homme qu'à son frère unique. Poussin avait depuis longtemps pris parti de s'en accommoder. La place de commissaire municipal de Bédaritz s'était, dès les premiers jours, affirmée de tout repos. Bédaritz n'avait que quelques centaines d'habitants, pour la plupart cultivateurs ou contrebandiers, souvent cumulant lucrativement ces deux professions et dont les maisons s'égayaient autour d'une agglomération paraissant échappée d'une boîte de jouets. Toutefois, un peu à l'écart, aux endroits jouissants des vues les plus pittoresques, quelques gens épris de nature agréable avaient fait bâtir des villas inspirées de style basque et entourées de terrains de tennis et de garages. Ces demeures n'étaient d'ailleurs habitées qu'en été. Seule la plus somptueuse, celle de Stefan Letzer, le fameux inventeur scandinave d'engins de guerre, restait ouverte en toute saison. Letzer s'y était réinstallé 2 ans auparavant, au milieu des siens et de ses serviteurs, pour, disait-on, y travailler tranquille, loin des importuns et des fièvres des cités. L'activité professionnelle du nouveau commissaire ne s'était exercée au total qu'à l'encontre d'un excès de vitesse et d'un cas d'ivresse sur la voie publique. Cependant, la guerre était venue troubler l'atmosphère bucolique de Bédaritz. Le commissaire principal s'était vu du jour au lendemain requis sur place à la fois par l'autorité militaire et la sûreté nationale. La fierté qu'il avait conçue de l'honneur qui lui était fait était secrètement, mais assez fortement contrebalancée par le sentiment des responsabilités et des fâcheuses complications que l'accomplissement de ses nouveaux devoirs lui faisait prévoir et craindre. Heureusement, pendant près de 5 mois de guerre, il n'avait été pour ses craintes. Rien, absolument rien, ne s'était passé. Les nouvelles du drame mondial arrivaient à Bédaritz avec un tel retard ou sur des ondes si troublées que chacun avait pris son parti de continuer à vivre dans une philosophique quiétude. Et tout à coup, exactement le 20 janvier 1940 à 8h10 du matin, la terrible affaire avait éclaté sans qu'on l'attendît, sans que rien eût pu faire la prévoir, brutalement. Comme surviennent la plupart des ennuis, des accidents, des cataclysmes, la mort elle-même. Le commissaire municipal venait de terminer un petit déjeuner, qui n'avait de petit que la désignation, et coiffé du béret basque qu'il avait adopté bien qu'il ne lui saillât point. Il s'était mis sur le pas de sa porte, humant l'air frais des herbages proches qui se mariaient heureusement, aux senteurs de pommes de pin. Il se préparait à se rendre au commissariat, installé à son maître de là, dans une petite salle de la mairie au rez-de-chaussée. Là devait déjà l'attendre le septuagénaire Holzaburu, qui cumulait à Bédaritz les fonctions de garde champêtre, de tambour de ville, d'agent de police et de secrétaire illettré du commissariat. À ce moment de béatitude matinale, Poussin aperçut un jeune pâtre qui poussait vivement la petite barrière du jardin, tandis que le troupeau de ses chèvres se mettait en devoir de tranquillement brouter les herbes rares sur les côtés de la route. Le gamin haletait tout en courant. « Oh, les gars, monsieur le commissaire, là-bas, dans un fossé, près de monsieur Letzer, un homme mort, il a du sang sur le visage. »« Un crime ? » s'écria Poussin. Le commissaire prit immédiatement l'attitude calme et grave de celui qui en a vu bien d'autres, et qui sait concevoir, sans délai, les décisions qui conviennent dans les plus troublantes circonstances. Cependant, Amélie Poussin, survenant derrière son frère, se chargeait d'une voix aigre-douce de minimiser la nouvelle. « Un ivrogne, sans doute ?» Le gamin secoua la tête d'un air de doute. « Je crois que c'est un monsieur qui habite à la Cloche d'Or, un grand brun, un que j'ai vu quelquefois dans le jardin de M. Letzer. »« Monsieur Casalta ?» s'écria aussitôt Poussin. Le pâtre avait un haussement d'épaule d'ignorance. Il dit encore « Son chapeau est resté sur le bord de la route, vous verrez. » Poussin eut une toux qui tenait du grognement. « Diable, un ami de Letzer. Toi, petit, galope jusque chez le docteur et les agarrets. Dis-lui qu'il prenne sa voiture et qu'il vienne me rejoindre vivement au commissariat. Allez, file !» L'enfant n'avait pas disparu, que Poussin s'empressait de gagner la mairie. Comme il passait le portillon de son jardinet, sa sœur lui lança de l'intérieur de la maison « N'oublie pas de prendre le rognon de veau chez le boucher !» Moins d'une demi-heure après, le commissaire, le docteur, le maire de la ville et le vieil Holzaberu entouraient le corps d'un homme qu'ils avaient retiré du fossé au fond duquel il se trouvait, ainsi que le pâtre l'avait indiqué. La victime était de grande taille, âgée de 30 à 40 ans, et fort élégamment habillée. Avant qu'on eût dérangé quoi que ce fût, Poussin avait pris des photographies à l'aide d'un appareil prêté au passage sans complaisance par Amélie Poussin. Le docteur, après un premier examen, assez superficiel, avait résumé ses constatations. « Oui, c'est bien, M. Casalta. J'ai joué au tennis avant-hier contre lui chez les Letzer. Le suicide ne fait pas de doute. Il s'est tiré une balle de revolver dans la bouche. Voici l'arme. Deux dents sont brisées à la mâchoire inférieure. Le projectile, autant que j'en puisse juger, semble être allé se loger quelque part dans le crâne à droite. La mort doit remonter à minuit environ. « Il faudrait le transporter à la mairie, » suggéra le maire d'une voix rogue. « Naturellement, » approuvait Poussin. « Je reviendrai ensuite chez les Letzer pour réunir tous les renseignements utiles. »« Certainement, certainement, » reprit le docteur. « Mais les draps de ma voiture sont tout neufs et ça m'ennuie beaucoup de transporter ce malheureux dans l'état où le voilà. » « On pourrait peut-être demander à M. Letzer, » commença le vieil Holzaberu. Il s'arrêta net. Il sentait que la proposition qu'il allait faire ne recevait pas de ses chefs un accueil favorable. Le docteur lui-même prenait aussitôt son parti du transport indésirable. Durant le trajet, il expliqua tout en conduisant. « Je ne crois pas que M. Letzer aimât beaucoup M. Casalta. C'était surtout un ami de ces dames et particulièrement de Mme Arruega, la belle-mère de M. Letzer. » Un peu plus loin, il ajoutait « Ça me fait penser que hier soir, avant le dîner, comme je rentrais d'une visite, j'ai aperçu ce malheureux qui sortait de la villa Letzer. Il était avec Mr. Haskin, et vous savez, cet Américain, le fiancé de Mademoiselle Lilda, la jeune sœur de Letzer. Il m'a semblé que la conversation était plutôt violente. Haskin avait l'air furieux. « Vraiment ?» questionna soucieusement Poussin sans trop savoir pourquoi. En arrivant à la mairie, les quatre hommes transportèrent Casalta dans une petite pièce attenant au commissariat et y en servirent d'autres temps de corps de garde. Une grande table sur laquelle, jadis, avait dû se vautrer des ripailles, reçut le suicidé et le docteur Élisa Garret prit des dispositions pour, avec l'aide d'une voisine, ancienne infirmière, se livrer aux constatations médicales prescrites par les lois. Pendant ce temps, Poussin s'était emparé du portefeuille et des bijoux de Casalta. Puis, abandonnant le docteur à ses devoirs professionnels, il passait, suivi du maire, dans la pièce voisine, bureau du commissariat. Immédiatement, il se mit en devoir d'installer son butin, portefeuille, bijoux, revolver, sur une table devant laquelle il s'assit gravement. Le maire était pendant ce temps allé coller son front au carreau poussiéreux de la fenêtre et, main derrière le dos, perdait son regard dans le ciel bleu. Il se retourna, en entendant Poussin lire à haute voix le passeport de Casalta. Ce passeport, qu'il avait d'ailleurs vu un mois auparavant, à l'arrivée de l'étranger à Bédaritz, à la Cloche d'Or. Casalta, Constantin, 37 ans, né à Alexandrie, égyptien, naturalisé bulgare, célibataire, profession voyageur, répéta le maire en écho, de commerce, probablement, expliquait Poussin, tout en continuant à examiner le passeport dont le nombre de visas de frontières, infiniment divers, excitait sa curiosité. Mais à ce moment même, Le médecin entrait dans la pièce et laissait ouverte la porte derrière lui. Il avait un air gêné, presque intimidé. « Eh bien voilà, » dit-il, « l'arme est bien celle qui a servi. » Il s'arrêta, jeta un regard inquiet derrière lui et ajouta, hésitant, « Mais il y a de drôles de choses. »« Quelles drôles de choses ?» questionna Poussin, les yeux ronds, sourcils arqués, prêts au scepticisme. « Eh, d'abord que ce sont les dents du dessous qui sont brisées et non celles du dessus. » Quand le coup est parti, le revolver aurait dû se relever et casser les dents du dessus et non celles du dessous. C'est évident. Et puis quoi encore? Et puis la trajectoire de la balle va de la gauche de la bouche au sommet droit du crâne. Et alors? Alors, un droitier, et M. Casalatin était droitier, il fumait de la main droite, jouait au tennis de la main droite. Un droitier ne peut se tuer ainsi. Il faudrait qu'il fît une contorsion du poignet absolument inutile et peu vraisemblable. Il est certain que si on essaye, on s'en rend facilement compte. Enfin, le chapeau est tombé sur le bas-côté de la route, sans doute dans la chute du corps, tandis que nous avons retrouvé le revolver dans le fossé. La mort a été trop instantanée pour qu'on imagine que Casalta ait pu, après un suicide, se traîner jusqu'au fond du fossé. Il faut qu'on l'y ait entraîné. Poussin s'était levé d'un bond. Qu'est-ce que c'est que toutes ces complications? Il a pu jeter son chapeau sur la route avant de se tuer dans le fossé. Oh, souvenez-vous, objectait timidement le docteur, l'herbe était foulée depuis le chapeau jusqu'au fossé. Poussin, de plus en plus nerveux, poursuivait. Alors on l'aurait tué, on lui aurait laissé son portefeuille qui est bourré d'argent et ses bijoux qui ont l'air de valoir une petite fortune. Et comment l'aurait-on tué de cette façon impossible, voulez-vous me le dire? Il aurait fallu l'assommer d'abord. Y a-t-il des traces d'échymose? Non. Ou administrer un narcotique à effet rudement bien calculé à l'avance? Je ne crois pas qu'il était sous l'influence d'un soporifique. Alors, vous voyez bien, triomphait déjà Poussin, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Quand on a comme moi été 30 ans à la police judiciaire, on sait tout de même reconnaître un suicide d'un crime, et là, vraiment, il n'y a pas de doute. Une voix calme s'éleva. Non, c'est un crime. La phrase avait été prononcée par un homme qui se tenait sur le pas de la porte de communication. Poussin avait sursauté comme sous l'effet d'une forte secousse électrique. Il regardait le nouveau venu bouche bée. Une sorte d'effroi se peignait sur son visage. « Gray ? » balbutia-t-il. « Oui, c'était bien Gray, l'extraordinaire inspecteur Gray, celui que ses chefs et ses collègues à la police judiciaire avaient, pour ses constantes réussites, surnommé le sorcier. Celui que Poussin avait toujours jalousé au cours de communes enquêtes. Et Gray, oublié, réapparaissait tout à coup à 800 kilomètres de Paris tel le spectre de Banco, tout exprès, semblait-il, pour se mêler d'une affaire déjà menaçante de complications. Poussin eut une réaction bourrue. « Enchanté de vous voir, Gray. Mais à quel titre êtes-vous ici et vous mêlez-vous immédiatement d'une affaire qui ne regarde que moi ?» Gray comprit les craintes de son ancien vieux collègue. Il résolut de le flatter. « Mon cher commissaire, je sais très bien que vous n'avez pas besoin de moi pour débrouiller les affaires les plus complexes. Vous l'avez assez longtemps prouvé à la police judiciaire. » À cette réponse, aussi enchanteresse qu'imprévue, Poussin, stupéfié, rougit, se gonfla, et aussitôt jeta un coup d'œil orgueilleux vers le maire et le docteur. Gray continuait tranquillement. « Si je suis ici, c'est que j'appartiens depuis la guerre à un service qui m'a envoyé voir à Bédaritz ce que faisait le sieur Casalta auprès de M. Letzer. » Que pouvaient bien signifier ces paroles? Les trois hommes, intrigués, vaguement inquiets, ne quittaient pas des yeux le nouveau venu. « Vous n'ignorez pas que les inventions de M. Letzer ont été sans doute jusqu'à présent acquises par les alliés. Mais leur secret intéresse au plus haut point toutes les puissances du monde et particulièrement les nations ennemies. » À l'inverse de ce que Gray faisait mine de croire, les deux Bézaro et Poussin lui-même ignoraient tout de semblables occurrences. Qu'allait-il apprendre? Or, Letzer est étranger, poursuivait Gray, et bien qu'il soit très riche et, pense-t-on, dévoué à notre cause, à laquelle d'ailleurs ses contrats le lient, il n'en est pas moins à surveiller. Son entourage, ses amis, ses intimes le sont encore davantage. Mes services n'ont pas manqué d'assurer cette surveillance. « Nous sommes tenus au courant ?»« Par qui ?» interrompit vivement Poussin. Il était de nouveau vexé de n'avoir pas été choisi par les services centraux pour une besogne aussi importante et comprise dans son ressort. Gray eut un geste d'ignorance non joué. « Par un agent secret dont je ne connais pas moi-même la personnalité, » assurait-il. « Tout ce que je puis dire, c'est que la présence de Casalta nous ayant été signalée et se prolongeant à Biarritz, mes chefs se sont inquiétés et ont cru bon d'envoyer un agent en mission spéciale. Le regard que le maire leva vers Gray était une question. Gray l'a compris et ne fit point de difficulté pour y répondre. Casalta était un agent de l'étranger, peut-être de l'ennemi, et qui s'était fait une spécialité d'acheter les inventions de guerre. Quand il ne pouvait pas les acheter, il les volait. Au reste, au passage, il était capable d'espionnage, et à peu près de toutes les besognes malhonnêtes susceptibles de lui rapporter de grosses sommes d'argent. Et voilà pourquoi je suis arrivé hier soir à Biarritz, dans ce charmant petit hôtel de la Cloche d'Or où j'ai passé la nuit. Maintenant, messieurs, veuillez m'excuser, mais il faut sans tarder que je rejoigne ma place.
Votre place ? Questionna Poussin, étonné du terme.
C'est vrai, j'ai oublié de vous dire. Je suis censé venir ici comme maître d'hôtel de M. Letzer. Celui-ci s'est adressé à un bureau de placement de Paris pour avoir d'urgence ce genre de serviteur. Nous l'avons appris, et c'est ce bureau qui m'envoie ici. Dans notre profession, on gagne beaucoup, à ne pas être connu.
Poussin objecta, déjà content. Mais puisque Casalta est mort, votre mission est sans but.
Ce n'est pas ma façon de voir, mon cher commissaire, répartit Gray, le regard pensif. Je crois qu'il est nécessaire de connaître le meurtrier de Casalta. Cela peut très bien être un complice ou un concurrent, et tout aussi dangereux et même davantage. Vous avez à découvrir le coupable d'un crime commis. Moi, j'ai à démasquer peut-être un individu capable d'en commettre d'autres, et plus grand encore. Comme il y a identité entre ces deux personnages, nos enquêtes iront de front vers le même but.
Nos enquêtes ? S'affolait Poussin, ramené à une réalité qui lui semblait remplie d'embûches.
Bien entendu, l'une de ces enquêtes vous appartient entièrement, mon cher Poussin. Elle aidera celle que je poursuivrai dans l'ombre, ou plutôt sous l'incognito de la livrée du domestique. Il va sans dire que vous m'avez vu aujourd'hui pour la première fois. Admettons que je sois venu ici faire viser mes papiers d'identité, c'est tout.
Gray se tourne alors vers le maire et le docteur.
« Je n'ai pas besoin de vous dire, messieurs, qu'une indiscrétion serait un crime contre la sûreté de la nation. » Il se dirigea aussitôt vers la porte donnant sur la rue, mais avant de sortir, il s'arrêta, se retourna et dit encore à l'adresse de Poussin « Ne perdez pas trop de temps, monsieur le commissaire. Je sais que vous aimez les pistes chaudes. Et téléphonez au parquet pour lui communiquer vos conclusions sur ce soi-disant suicide. » Sur ces dernières paroles, il sortit.
« En attendant, dit Poussin, voilà une enquête qui ne s'annonce pas commode. »«
Oh, bien sûr, j'en ai vu d'autres, mais Letzer n'a pas l'air facile à manier. Et ce diable d'Américain qui est chez lui, non plus. Et puis il y a une bande de femmes là-dedans. »«
Ça, approuva le docteur. »«
Oui, vous les connaissez, vous, docteur. Eh bien, soyez donc assez gentil pour me donner tout de suite le nom de ces femmes-là, leur situation dans la maison et quelques renseignements sur chacune, ça me fera gagner du temps. » Le docteur allait s'exécuter. Il attendit que Poussin se fût emparé d'un carnet de Moleskine noir et d'un crayon qu'il tirait de sa poche. Il commença. « Il y a d'abord Madame Letzer, la femme de Letzer. Elle a 25 ans de moins que son mari. Elle se nomme Anna Maria, mais on a coutume de l'appeler Ariana. C'est un cerveau d'oiseau. Elle est fort jolie. Vous avez ensuite sa mère, la belle-mère de Letzer, par conséquent Dolores Arruega, une Américaine du Sud, extrêmement bien conservée, d'ailleurs aussi femme enfant que sa fille, mais ayant plus d'esprit, signe particulier, mange des bonbons toute la journée. Letzer a, paraît-il, rencontré la mère et la fille il y a 3 ans au cours d'une croisière dans une escale au Caire. À Skin, l'Américain les traite irrévérencieusement de gibier de palace. Je serais plutôt tenté de croire qu'en l'occurrence fut Letzer qui fut le gibier, mais passons. Je crois que ce sont elles qui ont présenté Casalta à Letzer et qui l'ont introduit dans la maison. Elles ont dû le connaître dans un casino ou sur un paquebot quelconque. À en croire ce que M. Gray vient de nous apprendre, Casalta n'aura pas manqué de faire servir ses 2 perruches à ses fins.
Le maire écoutait, immobile, les indications que le docteur donnait et que Poussin notait fiévreusement.
Nous arrivons maintenant, par ordre de préséance, à Mademoiselle Hilda Letzer, demi-sœur de Letzer, et guère plus âgée que sa belle-sœur Anna Maria. Nature assez mystérieuse, celle-ci, secrète, impénétrable. Je vous défie de tenir avec elle 1 minute de conversation. C'est une muette, sauvage, dramatique, donnant l'impression du feu qui couve sous la cendre. Comment cette nature a-t-elle pu accepter de se fiancer avec celle d'Askin, Américain réaliste, robuste, assez violent. J'avoue ne pas comprendre. Il est vrai que voilà 2 ans que ces fiançailles durent et que la date du mariage semble de plus en plus éloignée. Dois-je vous dire que j'ai surpris chez Hilda Lenzer des regards appuyés sur le beau Casalta, regards qui suffiraient à expliquer l'attitude violente que, comme je vous l'ai dit, j'ai cru deviner hier chez Askin en présence de l'Égyptien. Poussin poussa un « impérieux » et son regard devint menaçant. Mais le médecin continua un exposé auquel il prenait plaisir car il le mêlait à une enquête de police, éventualité qui avait été souvent son rêve secret. Les 3 autres femmes de la maison sont de moindre importance. Il y a Mademoiselle Duchesne, Françoise Duchesne, la secrétaire de Letzer. C'est une ancienne préparatrice en chimie de la faculté de Paris, une licenciée en sciences. Letzer l'accable de travail. On l'aperçoit à peine aux heures des repas. C'est un être effacé qui cumule les fonctions de sténodactylo, de garçon de laboratoire et de femme de charge, aucune des autres femmes n'étant capable de mener une maison. Il y a encore Eugénie, la cuisinière, brave femme à l'aspect bourru, que vous devez connaître car elle vient souvent en ville. Et enfin Hortense, la femme de chambre, être revêche, bougon, susceptible et prétentieux, on ne peut plus désagréable. C'est tout. Tandis que Poussin refermait son carnet, le médecin, désolé de n'avoir plus de portrait de femme à brosser, voulut encore dire quelques mots. Je vous ai vaguement dépeint le fiancé américain. Quant à Letzer, ma foi, c'est bien l'être le plus distant que j'ai connu de ma vie, un véritable morceau de glace. On ne peut, en voyant ce regard froid dans ce visage pâle et tourmenté, s'empêcher d'évoquer des moines de l'Inquisition. Poussin s'était levé et, hésitant, regardait le maire. Il faudrait, finit-il par dire, prévenir le parquet. Voulez-vous vous en charger, téléphoner pendant que je vais là-bas? Le maire, ayant acquiescé d'un mouvement de tête, Poussin sortit d'un pas martial, voulant montrer qu'il n'était pas de ceux qui hésitent devant une action, aussi pénible soit-elle, dictée par le devoir professionnel. Il était parfaitement exact, d'ailleurs, qu'il en était ainsi de Poussin. Quand il se présenta chez M. Letzer, ce fut Gray qui lui ouvrit. Le célèbre inspecteur était en maître d'hôtel d'une tenue irréprochable. C'était le parfait serviteur de grande maison. Il en avait jusqu'à l'attitude à la fois vaniteuse et servile. Lorsqu'il s'était lui-même présenté chez M. Letzer, 1 heure à peine auparavant, il avait été reçu par Mademoiselle Duchesne, la secrétaire. Celle-ci avait examiné la lettre d'introduction du bureau de placement, lu attentivement les certificats aussi louangeux que faux, débattu les gages et demandé à Gray de prendre immédiatement son service. Eugénie, la cuisinière, et Hortense, la femme de chambre, l'avaient, l'une avec bonhomie, l'autre avec aigreur, rapidement mise au courant des êtres, des habitudes de la maison et des personnes qui l'habitaient. En 5 minutes, Hortense avait fait de ceux-ci un portrait qui, pour être plus court que celui tracé à Poussin par le médecin, était loin d'être plus indulgent. Pour elle, Letzer était un homme dangereux et Askin sûrement un ancien gangster. Quant à Madame Letzer, c'était une jeune propre à rien. Sa mère, Madame Arruega, une vieille folle bourrée de confiserie. La sœur de Letzer, Mademoiselle Hilda, une créature du démon. L'objet particulier de sa haine était cependant la secrétaire, Mademoiselle Duchesne. Celle-là, sous ses airs modérés, elle la jugeait capable du pire. Maigret n'avait encore aperçu personne des maîtres de la maison. Il savait que ces dames ne descendaient que vers midi et que M. Askin était depuis ce matin auprès de M. Letzer, lequel, comme chaque jour, était enfermé dans son laboratoire depuis 7 heures. Gray s'était bien gardé de parler de Casalta, encore moins du drame de la nuit. Il attendait l'arrivée et l'enquête de Poussin, espérant bien se trouver le plus possible présent lorsque le commissaire de Bédaritz annoncerait la nouvelle du meurtre aux habitants de la maison. Il comptait bien juger ainsi à leur valeur les réactions que cette nouvelle produirait sur chacun d'eux. Aussi, dès que Poussin fut entré, il lui murmura rapidement. Sous un prétexte quelconque, et s'il en est besoin, gardez-moi à votre disposition pendant vos interrogatoires. Poussin ne demandait pas mieux que de ne pas être seul en semblable aventure. Il cligna de l'œil en signe de consentement et demanda haute voix « Je désirais voir M. Letzer. » Gray pria son ancien collègue de bien vouloir s'asseoir et attendre, puis, quittant le hall, il alla trouver Mademoiselle Duchesne dans le petit bureau personnel où elle lui avait indiqué qu'il eût à venir la chercher en cas de besoin. « C'est monsieur le commissaire de police de Bédaritz, » annonça-t-il, « qui désire voir M. Letzer. » La jeune fille qui écrivait se leva aussitôt et s'immobilisa. Son beau visage pâle et calme semble s'être subitement assombri, un peu crispé.
« Le commissaire de police ?» répéta-t-elle. Elle hésita.
« Monsieur Letzer n'aime pas qu'on le dérange.
Peut-être puis-je répondre, de quoi s'agit-il »
Gray ne crut pas devoir feindre de tout ignorer.
« Sans doute, répondit-il, du crime qui a été découvert ce matin près d'ici.
Du crime. Un certain monsieur Casalta a été trouvé mort dans un fossé. »
« Casalta. » Mademoiselle Duchesne regardait Gray imperturbable et semblait indifférent.
« Casalta. »
Mademoiselle Duchesne regardait Gray imperturbable et semblant indifférent.
Elle faisait visiblement effort pour dissimuler les sentiments qui l'agitaient. Elle parut prendre une résolution.
« C'est bien. Je vais prévenir M. Letzer. Faites entrer le commissaire dans le living room. »
Comme elle sortait, Gray, jouant un peu la confusion, dit d'une voix peu assurée.
« Il se peut que je me sois trompé, mademoiselle. Peut-être vaudrait-il mieux ne pas donner à M. Letzer un motif peut-être inexact de la visite du commissaire. »
Mademoiselle Duchesne, à ces mots, s'arrêta net dans son mouvement de sortie et se retourna, examina Gray avec étonnement. L'examen dura bien 7 ou 8 secondes.
« C'est bien, » dit-elle, « vous avez sans doute raison. »
Quelques instants après, Gray était devant Poussin dans le living room. Il avait adopté une attitude gênée et vexée, et M. Letzer, qui entrait, suivi d'Askin et de Mademoiselle Duchesne, pouvait aisément croire, ainsi que le désirait le policier, que son nouveau serviteur était en train de subir les questions du commissaire.
« Je pense que c'est là le nouveau domestique, » dit sèchement le maître de maison en regardant d'abord Gray. Il poursuivit avec ironie.
« Est-ce à lui qu'on veut la police ?»
L'homme était maigre et dans son visage émacié, les yeux très pâles, presque gris, s'abritait au fond d'une arcade sourcilière broussailleuse. La lèvre, très mince, était méchante. Gray sentit immédiatement une vive antipathie naître en lui pour cet homme. Mais il professait volontiers que sympathie ou antipathie sont dangereuses dans une enquête. Askin, d'ailleurs derrière le maître, attirait déjà son attention. Ce grand gaillard de 40 ans, à la mâchoire un peu bestiale, donnait en ce moment l'impression d'être profondément troublé malgré le sourire ironique qu'il affichait. Poussin, à la voix métallique et au ton méprisant de Letzer, avait été comme foyé. On allait voir à qui on en avait affaire.
« Non, monsieur. » commença-t-il sèchement, « ce n'est pas votre maître d'hôtel que j'en ai. C'est à vous et à toutes les personnes habitant cette maison. Je suis ici, officiellement, et en attendant le parquet, pour enquêter sur un monsieur Casalta, victime d'un meurtre camouflé en suicide et dont on a découvert le corps gisant sans vie au fond d'un fossé à 100 mètres de chez vous.
« Vraiment ?»
répondit froidement Letzer. « Et c'est pour ça que vous osez me déranger ?»«
Mais !»
tentait de commencer Poussin, décontenancé par l'indifférence grossière de l'homme.
« Mais rien, monsieur. Ce Casalta est un ami de ma belle-mère et peut-être de ma femme. Mais il n'est pas le mien, pour diverses raisons qui me sont personnelles. Moi, je n'ai rien à vous dire sur lui, si ce n'est qu'il ne me plaisait pas. C'est tout. Il m'importe peu qu'on l'ait tué à 100 ou 1000 mètres de chez moi. Ce n'est pas moi qui l'ai tué, et ma foi, je le regrette presque. Cela m'eût causé de l'agrément. »
Poussin était littéralement hébété par l'attitude et les paroles de Letzer. Ce qu'allait ajouter cyniquement Askin ne devait pas moins le stupéfier.
« Ce Casalta, quel homme mal élevé !» disait l'Américain. « Venir se faire tuer à 100 mètres d'ici. Il ne pouvait pas choisir un endroit qui n'aurait pas tiré sur nous les soupçons du premier imbécile venu.
Quoi ?»
grondait Poussin en sursautant.
« Je ne parle pas de vous plus que d'autres, mais je suis sûr que Casalta l'a fait exprès pour nous attirer des ennuis. Permettez ?»«
Non !»
D'autant plus que hier soir, je lui ai dit que j'avais assez de sa personne auprès de Mademoiselle Letzer, ma fiancée, et que s'il insistait, je lui casserais la figure. Il a voulu se venger.
Mais puisque je vous dis qu'on l'a tué, vous entendez qu'on l'a tué, tué.
Oh, ça ne fait rien. Crime camouflé en suicide, dites-vous. Pourquoi pas suicide camouflé en crime? Est-ce qu'on lui a volé quelque chose?
Non.
Vous voyez bien.
À ce moment même, Madame Arruega, la belle-mère de Letzer, entra. Elle était toute pimpante, malgré la cinquantaine certainement proche.
Qu'est-ce que vous avez à crier ainsi?
Demanda-t-elle à Askin. Letzer laissa tomber sèchement.
« C'est votre ami Casalta qui est venu se faire assassiner cette nuit à 100 mètres de la maison. »
Gray nota, toutes fins utiles, que Letzer venait d'annoncer que Casalta s'était fait tuer cette nuit, alors que personne ne lui avait encore indiqué le moment du crime. Madame Marouega, à l'annonce qui lui était faite, s'était immobilisée.
« Oh mon Dieu » murmura-t-elle. « Est-ce possible ?»
Ce fut le signal pour Askin
de reprendre un peu plus calmement toutefois sa charge contre Casalta. « Ce commissaire prétend qu'on a tué votre ami. Moi, je prétends que c'est lui qui est venu se tuer près d'ici pour nous embêter. C'est un civil, un individu. » Madame Arruega lançait sur Askin, tandis qu'il parlait, des regards presque haineux. Elle l'interrompit. « Qu'est-ce que vous chantez là ? Si Constantin s'est tué, c'est en tout cas en partie de votre faute. Ledzer et vous, depuis qu'il venait nous voir, n'avez cessé d'être méchants pour lui. » Poussin eut une interruption pleine de bon sens. « Excusez-moi, madame, mais on ne se tue pas parce que deux messieurs sont désagréables avec vous. » Madame Arruega prit une attitude courroucée pour répondre. « C'est que vous ne savez pas. Ce monsieur Askin que voilà, son père était américain, mais sa mère était russe. C'est un mélange de cosaques et de gangsters. » Poussin dut s'interposer pour empêcher Askin de se lancer sur la femme. Celle-ci continuait, bravant l'autre. « Vous comprenez, Casalta était beau, il était fin, il plaisait aux femmes. Toutes ici, nous l'aimions beaucoup. Monsieur Askin ne pouvait pas supporter ça. Peut-être s'est-il imaginé que Constantin faisait la cour à Elsa, mademoiselle Ledzer. Ah, ne dites pas non, Askin, je vous ai vu regarder ce malheureux avec des yeux d'assassin. Ah, laissez-moi m'en aller. Je crois que j'étranglerai cette folle, hurla l'Américain. Et se détachant brusquement, il sortit précipitamment en jurant sa langue natale. Ledzer n'avait point quitté son calme méprisant. Il se tourna vers Poussin et demanda « À quelle heure remonte ce prétendu crime ?»« Aux environs de minuit. Tiens, c'est curieux. Je suis sorti seul avec ma voiture hier soir et je suis rentré ici à minuit et quart. Je n'ai vu personne sur la route. » Madame Arruega, pendant ce temps, s'était approchée d'une table proche de la cheminée et puisait des confiseries dans une bonbonnière. Mademoiselle Duchesne, près de la porte donnant sur le hall, place qu'elle n'avait pas quittée depuis son entrée, regardait Gray avec une étrange fixité. Presque exsangue, elle semblait faire de grands efforts pour se soutenir. C'est à elle que Poussin s'adressa, après avoir lancé un regard de détresse à Gray. « Il va être midi, » dit-il. « Voulez-vous prévenir tout le monde ici que je reviendrai dans le courant de l'après-midi, probablement avec le parquet ?»« J'engage vivement les gens de cette maison à répondre à monsieur le juge d'instruction sur un autre ton que celui qu'on a employé avec moi. » Madame Arruega se tourna vers le commissaire. « En attendant, voulez-vous un bonbon ?» Il balbutia, outré de cette familiarité déplacée. « Non merci, le sucre me fait mal aux dents. »« Vraiment ?» dit Madame Arruega, prenant un air apitoyé. « Moi, je crois que si on m'empêchait de manger des bonbons, j'en mourrais. C'est vraiment la seule chose que j'aime dans la vie. » Poussin se retint pour ne pas hausser les épaules et sortit. Gray l'accompagna jusqu'à la porte du hall. Le commissaire lui glissa. « Et si cet Askin avait raison ? Si c'était vraiment un suicide ?» Il fut stupéfié par la réponse. « Non, c'est un meurtre. Et je crois déjà entrevoir comment et par qui il a été commis. » Le commissaire, ahuri de cette assurance, eût bien voulu connaître la pensée de ce sorcier de Gray. Mais mademoiselle Duchesne passait dans le hall. « Georges, dit-elle, le déjeuner est à 1 heure. Veuillez mettre le couvert. » Poussin fut obligé de s'en aller. Sur la route du retour, il faisait un louable mais vain effort pour, à l'aide de ce qu'il avait vu et entendu, tenter de rattraper ce diable de Gray sur le chemin de la vérité. Devant l'impossibilité qu'il y rencontrait, il se convainquit qu'il était impossible que son ancien collègue eût, en si peu de temps, découvert quoi que ce soit de certain. Le déjeuner, qu'il servit parfaitement, devait simplement permettre à Gray de faire plus avant connaissance avec les maîtres ou les hôtes de la maison. Il n'y eut pas 50 paroles d'échangées. Une lourde gêne planait sur les convives. Askin était séparé de Madame Arruega par la longueur de la table et les deux récents antagonistes faisaient mine de s'ignorer. Hilda Ledzer, en face de son père, mangeait avec peine du bout des dents. Ses yeux fiévreux se tenaient obstinément baissés. Seule, Anna Maria Ledzer, la jeune épouse de l'inventeur, avait une attitude dégagée. Elle regardait chaque personne l'une après l'autre avec étonnement, comme surprise de l'attitude de chacun. Cependant, à bien examiner son visage tiré, ses yeux un peu gonflés, Gray se persuada vite que là encore, il n'y avait qu'une attitude et que peut-être Madame Ledzer, malgré sa jeunesse, était la meilleure comédienne de tout ce monde et la plus remarquable dissimulatrice qu'on pût rencontrer. Il eut confirmation de cette appréciation quand il se trouva à l'office entre la cuisinière un peu trop attentionnée et la femme de chambre acariâtre. Si, à la table des maîtres, il n'avait pas entendu dire un mot relatif à la mort tragique de Casalta, il n'en était pas de même à la table des serviteurs.
Eugénie, qui avait tendance à mettre toute chose sur le plan sentimental, assurait que Casalta devait être victime d'un crime passionnel. « Tenez, ici, assura-t-elle, toutes ces dames trouvaient M. Casalta très bien. Ça se voyait bien. Allez, hier encore, Mme Letzer s'est promenée avec lui dans le jardin pendant plus d'une heure. Je sais bien qu'ils se connaissent depuis avant le mariage de madame. Je les voyais de la cuisine. Ah, ce qu'il était beau. Et un air vainqueur, vous savez, un type dans le genre d'un nommé Casanova dont j'ai lu les mémoires. C'est Mademoiselle Hilda, hier, qui a troublé la promenade. Elle arrivait du tennis. Elle est venue droit à sa belle-sœur et lui a parlé comme si elle allait se jeter dessus et la mordre. Une vraie panthère qu'elle avait l'air. Madame Letzer a haussé les épaules. Elle a pris une attitude méprisante. Mais elle a tout de même filé. Monsieur Casalta avait l'air de trouver ça très drôle. Il est parti plus loin avec Mademoiselle Hilda. La femme de chambre, tout en mangeant, interrompit venimeusement. Je ne veux rien insinuer, mais je comprends que Monsieur Haskin, qui est fiancé, et Monsieur Letzer, qui est marié, n'aient pas aimé beaucoup ces gens-là. Oh, rétorquait la cuisinière, Monsieur Letzer a bien autre chose en tête. N'empêche, assurait Hortense, que ce matin, pendant que je faisais la chambre de Madame Arruega, qui était en bas avec le commissaire, j'ai bien entendu, à travers la cloison, tout ce qui se disait dans la chambre de Mademoiselle Hilda. Il y avait là M. Letzer, Madame et Mademoiselle. Il leur disait qu'en revenant de Paris, il y a 8 jours, quand il est rentré, sans qu'on le sache, dans la nuit, il avait aperçu Casalta sortir à 1 heure du matin de la maison. Il voulait savoir qui Casalta était venu voir, si c'était sa femme ou sa sœur. Ni l'une ni l'autre ne répondait. Il a proféré des menaces. Puis il est parti en claquant la porte. Alors Mademoiselle Hilda a dit à Madame « Misérable !» Et Madame lui a répondu « Petit imbécile !» Il a dû sortir à son tour, car je n'ai plus rien entendu que Mademoiselle Hilda qui sanglotait. Vers la fin de l'après-midi, Poussin s'occupa à la réception du substitut et du juge d'instruction, leurs constatations, son rapport verbal et l'exposé des déductions de gré qu'il faisait sienne, sans trop de vergogne, bien que la présence du maître le gênât. Ces messieurs se rendirent également chez M. Letzer pour lui exposer que la victime, étant de ses relations et ayant été assassinée à proximité de sa maison, il le priait de laisser le commissaire qu'il commettait à cet effet pour poursuivre chez lui l'enquête commencée et qu'il jugeait utile. Letzer n'avait guère reçu ces messieurs plus aimablement qu'il n'avait accueilli Poussin. Toutefois, bien que sans bonne grâce, il s'inclina devant un désir d'allure impérative et qu'il ne pouvait refuser de satisfaire. Quant à Gray, deux faits avaient marqué sa journée. La première était un échange de quelques mots avec Madame Arruega. Après le déjeuner, celle-ci était restée seule dans le living room, tandis que le maître d'hôtel d'occasion desservait les tasses à café. Entre une praline et un marron glacé, elle lui avait tout à coup demandé « Comment vous appelez-vous, mon garçon ?»« Georges, madame. » « C'est très curieux, » avait-elle poursuivi. « Il y a quelques années, je me suis trouvé à Paris à l'hôtel Astor, à l'époque où y a été assassinée Clara Brandt, la vedette américaine de cinéma. J'ai aperçu à cette occasion un des détectives français qui s'occupait de l'affaire. Vous lui ressemblez étonnamment. Voyons, il s'appelait Gray. » Le policier décida de faire fond en danger. « Oh !» s'exclama-t-il aussitôt. « C'est encore plus curieux, alors, madame, je m'appelle également Gray, Georges Gray. »« Peut-être avez-vous un frère ? Je ne m'en connais point. » Madame Arruega examina attentivement au visage le serviteur qui se tenait respectueusement devant elle, puis tout en continuant à grignoter ses éternels bonbons, se mit à faire une réussite avec les cartes qui se trouvaient sur la table. Le second fait intéressant de l'après-midi était justement relatif à ces cartes. Lorsque Madame Arruega eut quitté le salon, Gray avait cru devoir mettre de l'ordre dans les cartes abandonnées en vrac. En les manipulant pour refaire le paquet, une particularité dut attirer son attention car il s'arrêta pour examiner de près plusieurs d'entre elles. Il examina de même les autres paquets contenus dans une boîte de cuir sur laquelle s'étalait le mot « bridge » en lettres dorées. C'étaient toutes des cartes de modèles étrangers. Les dos en étaient ornés de petits losanges dont l'ensemble était encadré d'un ruban bleuté. Quelques instants plus tard, tandis qu'il faisait consciencieusement l'argenterie, il demandait à la femme de chambre « Elles sont jolies, les cartes à jouer, dont on se sert dans la maison. D'où viennent-elles ?»« Oh !» répondit aussitôt Hortense, « c'est quelqu'un de la maison, une de ces dames, ou même M. Letzer lui-même, qui les a fait venir de l'étranger, de Suisse, je crois. Je vous demande un peu,
comme s'il n'y avait pas de carte en France. Elles sont arrivées à 8 jours d'intervalle par petits paquets. Oh, je me doute pourquoi. Allez, c'est pour faire des économies sur les envois. Les gens riches, il n'y a pas plus regardant.
L'arrivée du parquet, sous la conduite de Poussin, avait interrompu la conversation, mais en allant ouvrir la porte à ces messieurs, Gray s'était bien promis de découvrir à quel nom, chez Letzer, les jeux de cartes étaient adressés. Quel profond intérêt pouvait donc présenter ces cartes pour que Gray décidât encore de les emporter cette nuit dans sa chambre pour à loisir les regarder de très près. Le parquet, sa démarche faite, avait laissé Poussin dans la maison. Celui-ci eut bien voulu questionner toutes les personnes qu'il n'avait pas vues dans la matinée, principalement Madame Letzer et la sœur de Letzer. Mais cette dernière était sortie avec Askin, et de son côté, Anna Maria était sortie avec sa mère, Madame Arruega. Comme Poussin se trouvait seul avec Gray dans l'escalier descendant à l'office, il lui confia sa perplexité. « Je puis vous dire, pour l'avoir surpris, les raisons pour lesquelles ces différentes gens sont sortis, offrit Gray. Je serais curieux de les connaître. » Mademoiselle Letzer a déclaré à Askin qu'il était nécessaire qu'elle lui parlât et qu'elle voulait lui expliquer, sans risque d'être entendue, les motifs d'une détermination qu'elle aurait prise. Askin a proposé une promenade vers certains villages du nom de Saint-Pierre. Elle a accepté. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien avoir à lui dire? Je suppose qu'elle voulait lui signifier leur rupture de fiançailles. Pour quelle raison? Parce que je suppose encore qu'elle a découvert qu'elle aimait Casalta et qu'elle ne se sent pas digne d'épouser un autre homme. Peut-être soupçonne-t-elle Askin d'avoir tué Casalta par jalousie.
C'est possible, approuva lentement Gray. Mais n'oublie pas que cette jeune fille peut très bien voir elle-même tuer Casalta par jalousie.
Poussin posa une dernière question.
Mais Madame Letzer et sa mère, où sont-elles?
Oh, celles-là, dit Gray.
Elles sont allées à pied jusqu'à la gare déposer une réclamation. Madame Arruega reçoit tous les 3 ou 4 jours, paraît-il, des colis de bonbons, comme bonne américaine du Sud, raffolant de confiserie, elle ingurgite à longueur de journée. Et il paraît que l'envoi attendu n'est pas arrivé.
Le pauvre Poussin avait été obligé de se rabattre sur Mademoiselle Duchesne, la secrétaire, et sur les 2 domestiques femmes pour alimenter son enquête. Les questions posées à Eugénie et à Hortense avaient reçu un tel flot de réponses inutiles, et celles posées à Mademoiselle Duchesne en avaient reçu si peu, qu'après ces interrogatoires, Poussin se trouvait encore plus embarrassé qu'auparavant. Madame Arruega et sa fille étaient rentrées vers 6 heures, au moment où Poussin allait quitter la maison, se promettant d'y revenir le lendemain matin. Ce fut Madame Arruega qui le retint. « Tiens, dit-elle, en revenant avec ma fille, j'ai passé près de l'endroit où mon pauvre Constantin a sans doute été trouvé mort. Je me suis arrêtée et tout près, j'ai découvert cet objet. » Se disant, elle tendait à Poussin un bouton, un simple bouton de pantalon d'homme. Le commissaire examina aussitôt l'objet. Sur la face, des lettres se voyaient qu'il lui a au doigt. Carter, Niusa, Niusa. Y a-t-il cela? Demanda tout à coup, inquiète, Madame Arruega, tandis que Madame Letzer s'approchait et disait. Voulez-vous me faire voir ça? À son tour, elle examinait le bouton et ses yeux se tournaient aussitôt vers sa mère avec un petit reproche. Celle-ci, gênée, expliqua.
« Est-ce qu'avec mes yeux, je puis lire des lettres aussi petites ?»
Madame Letzer poursuivit, cette fois à l'adresse du commissaire.
« Carter doit être le nom du tailleur. Quant à Niusa, autant vous dire tout de suite, cela veut dire « New York, United States, America ».
Poussa eut comme une détente de tout le corps.
« États-Unis ? Mais alors ce bouton doit appartenir à ce monsieur Askin ?»
Les 2 femmes gardaient le silence. Madame Arruega semblait vraiment désolée.
« Tout de même, si j'avais su, » finit-elle par balbutier, « il ne faudrait tout de même pas, à cause de cela, que vous alliez... »
Poussin l'interrompit d'un ricanement. « Ah ah !
À nous deux, maintenant,
Mr. Askin.
Je m'en doutais bien.
Attendez seulement qu'il rentre, ce coco-là. Il va voir à qui il a affaire. » Maigret avait assisté à cette scène. À ce moment, il sortit de la pièce et, faisant le tour de la maison, il gagna la route.
Dans le jardin, il avait croisé Mademoiselle Letzer qui rentrait seule, semblant sous le coup d'un grand désarroi.
Askin n'était pas avec elle. Gray aperçut l'Américain venant lentement tête baissée sur le chemin. Gray alla à lui. Askin ne devait pas rentrer chez Letzer ce soir-là, ce que Poussin expliqua en disant que la peur d'être arrêté lui avait sûrement fait prendre la fuite. Comme le commissaire allait regagner la ville, d'abord pour alerter téléphoniquement les gendarmes et les postes frontières, et leur donner le signalement de celui qu'il appelait déjà le meurtrier. Ensuite, pour rejoindre sa sœur Amélie, qui détestait qu'on fût en retard pour le dîner, Gray, le rencontrant, eut l'occasion de lui glisser au passage cette phrase. Victor Hugo a dit « Si l'on m'accusait d'avoir pris les tours de Notre-Dame, je commencerai par prendre la fuite. » Poussin, à l'entendre, avait cru clairement comprendre que Gray était mordu par la jalousie, et cette nuit-là, il fit des rêves de gloire. Gray, dans la nuit, n'avait point perdu son temps. Ayant emporté du salon deux jeux de cartes dans sa chambre, il s'était convaincu que ces jeux étaient effectivement ce qu'il avait pensé qu'ils fussent, de véritables lettres secrètes envoyées de l'étranger à quelqu'un de la maison. La manière employée était simple. 26 cartes correspondaient à autant de lettres, 10 autres à des chiffres, les 16 dernières ne servaient à rien. Pour écrire une lettre, on avait piqué extrêmement légèrement un losange de la carte correspondant à cette lettre, en commençant par le haut à gauche des losanges. Ainsi, le premier losange en haut à gauche d'une des cartes était la première lettre de la phrase. Avec un épiderme bien affiné à la pierre ponce ou avec une loupe, on reconnaissait facilement les piqûres. Ayant déterminé la lettre E, la plus employée en anglais et en français, sur la carte la plus chargée en piqûres, Gray avait assez aisément pu reconstituer les phrases écrites sur les jeux de cartes. L'anglais était la langue employée. Il traduisit « Nous ne pouvons attendre plus longtemps. Recevrez somme exigée des livraisons. » La phrase du second jeu était moins claire. « Avons 23. Ridicule offrir. Savon l'avait vendu à Brooks. Vous demandons 27. » Insistons, finissiez travaux, désirons formule complète et plan. Dans cette communication, plusieurs phrases frappaient et étonnaient Gray. Que signifiait d'abord « Savon avait vendu à Brooks ». Brooks appartenait au service d'armement anglais. C'était à lui que Letzer avait sûrement eu affaire dans les tractations relatives à ses inventions avec le gouvernement britannique en accord avec le gouvernement français. Gray savait cela. Que signifiait encore « Finissez travaux ». Cela ne pouvait guère s'adresser qu'à Letzer. Était-ce donc Letzer qui recevait ses communications secrètes? Ça devenait très grave. Si Letzer trahissait ses contrats, cela pouvait avoir des conséquences incalculables. Il fallait savoir. Et tout de suite. Mais comment? Letzer devait avoir une cachette secrète, difficile à trouver, où il enfermait ses secrets, aussi bien d'invention que de tractation, surtout si celle-ci était entachée de trahison. Casalta avait-il découvert cette cachette? Avait-il été surpris par Letzer et celui-ci l'avait-il supprimée? Cette hypothèse ne cadrait pas avec les premières déductions de Gray, avec la solution qu'il avait échafaudée et dont il avait laissé espérer à Poussin l'approche révélation. Sous l'empire d'un ardent désir de savoir, Gray quitta sa chambre à pas de loup. Un instinct lui disait que la cachette de Letzer devait se trouver en tout autre endroit qu'un de ceux où il était naturel de la chercher. Donc, ni dans le laboratoire, ni dans la chambre même de Letzer. Elle ne devait pas se trouver non plus dans une pièce où il lui fallut mettre qui que ce fût dans le secret. Le hall d'entrée était trop sujet au passage de gens. Il en était de même pour le living room. Le souvenir d'un petit salon faisant suite au salon salle à manger arrêta l'intérêt de Gray. Descendant deux étages, avec l'aide de sa lampe de poche, il parvint sans encombre et sans bruit à la pièce aperçue la veille. Dès qu'il y fut entré, il examina attentivement les murs, la cheminée, les gravures, les tableaux, souleva la carpette. Il ne trouvait rien. Pour une fois, son instinct semblait l'avoir mal guidé. Comme il allait sortir, il promena une dernière fois sur les cloisons le faisceau de sa lampe, et tout à coup, un fait l'étonna. Il y avait deux radiateurs de chauffage dans cette petite pièce. Certes, il avait remarqué que les habitants de la maison devaient être très frileux, car la brave cuisinière avait tout en pestant passé une grande partie du jour à entretenir la chaudière dont le soin lui incombait. Gray retourna vers le premier radiateur qui était brûlant, puis vers le second. Celui-ci était froid. Était-il fermé? Gray s'en assura. La manette de chauffage était cependant sur le mot chaud. Gray se mit alors à jouer avec cette manette, la tirant dans un sens, puis dans l'autre, puis essayant de la soulever, puis appuyant sur elle. Et tout à coup, un déclic se fit entendre. Gray, qui s'appuyait sur les éléments, les sentit légèrement bouger. Il tira lui et le radiateur entier, jouant sur des charnières dissimulées sous les boulons de jointure, vint à lui, entraînant un carré de cloison, découvrant un coffre mural assez profond, rempli de papiers, de dossiers, de plans. Froidement, méthodiquement, Gray, l'oreille aux aguets, se mit à examiner le contenu du coffre. Au bout d'une heure, il avait tout vu. Des secrets scientifiques et de haute valeur? Certes, le coffre en contenait, mais rien dans tout cela ne compromettait Ledzer, n'entachait sa probité, ne pouvait donner à suspecter ses actes. Vis-à-vis des alliés, n'apportait une raison valable au meurtre de Casalta. Comme Gray refermait le radiateur, alors qu'il était encore agenouillé, une sorte de bruissement soyeux frappa son oreille. Avant qu'il ait eu le temps de se relever, une lumière venait le frapper au visage et une voix de femme murmurait avec décision « Ne bougez pas ou je tire !» Gray reconnut dans la pénombre Mademoiselle Duchesne. « Espion ? Voleur ? Qu'est-ce que vous êtes ?» poursuivait la jeune fille. « Ni l'un ni l'autre, je suis même le contraire. Le contraire, oui. Puisque je ne puis faire autrement, je vous avoue que je suis ici pour veiller sur l'intervention de votre patron. C'est tout. Vraiment. La preuve ?» Gray, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, tira d'une poche un carton qu'il mit sous les yeux de la jeune fille. Celle-ci, portant le rayon lumineux sur la carte, la lut rapidement. « Par exemple, » murmura-t-elle, puis elle ajouta « Mais comment avez-vous connu l'existence de ce coffret ?»« En le cherchant. »« Pourquoi le chercher ?»« Je voulais savoir à quoi m'en tenir sur Ledzer. »« Ledzer n'est pas en question. Le danger venait de Casalta. Maintenant... » Elle laissa tomber sa phrase. « Ce n'est pas tout à fait fini, assura Gray, à moins que ce ne soit vous qui l'ayez si habilement tué. Moi ? » s'étonna-t-elle. « Soyez tranquille, dit Gray en se relevant malgré la menace persistante du revolver. « Je sais que cela n'est pas. » La jeune fille abaissa son arme. « Vous êtes Z-106, n'est-ce pas ? » demanda Gray dans un souffle. « Oui, avoua-t-elle aussitôt. « Venez, dit Gray. « Mettez-moi ou nous ne risquons pas d'être surpris. Je crois que nous avons l'un et l'autre pas mal de choses à nous apprendre. » Le lendemain matin, quand le commissaire Poussin entra de nouveau dans la maison de Ledzer, sa première stupéfaction fut d'y rencontrer Askin, qui, loin d'avoir passé la frontière, semblait tranquillement l'attendre. Avant qu'il pût placer un mot, Askin renversait les rôles et, s'emparant du commissaire, l'entraînait à la lingerie du sous-sol et, lui mettant littéralement sous le nez un Knickenbocker marron, il dit « Tenez, tenez, voilà la culotte d'où vient le bouton trouvé par Madame Arruega. Constatez, comparez, c'est le seul vêtement qui me reste encore de ce fait en Amérique. Demandez, fouillez, vous verrez que je vous dis la vérité. Or ce vêtement, voilà plus de 3 semaines que je ne l'ai pas porté. Je l'avais donné à Hortense pour qu'elle le raccommodât. Elle n'a pas eu le temps et cette culotte est restée ici depuis lors. Je ne puis donc pas en avoir perdu un bouton avant-hier sur la route. » Comme Hortense paraissait, il la prit à témoin de la véracité de ses dires. Bien que toujours sans affabilité, elle confirma les assertions de l'Américain. « Alors, gronda Poussin, pourquoi avez-vous disparu ? Parce que le maître d'hôtel m'avait conseillé de le faire. Il disait que Victor Hugo... « je sais, interrompait Poussin en grommelant furieux. Comme Gray survenait justement, le commissaire allait lui adresser des reproches assez vifs, mais son ancien collègue, à son tour, lui coupa la parole. « Monsieur le commissaire, dit-il, comme vous me l'avez ordonné, j'ai réuni tous les habitants de la maison dans le salon, et Mr. Askin va aller les rejoindre ainsi que Mademoiselle Hortense. » Askin eut un regard vers Gray, ayant pris sur la table une boîte assez grande entourée de papier glacé et ficelée d'une cordelière dorée. Il sortit de la pièce, suivi de la femme de chambre. Dès que les policiers furent seuls, Gray dit précipitamment à Poussin « Venez, vous allez arrêter la personne qui a tué Casalta et qui est également un agent de l'étranger. Je crois que mon mode d'agir vous permettra d'obtenir des aveux complets. » Il entraîna Poussin et en montant les quelques marches qui les séparaient de l'étage supérieur, il finit de mettre au courant le gros commissaire. Ce qu'il lui avait dit avait dû bien troubler Poussin, car entrant dans le salon où tous l'attendaient, il avait une mine encore plus ahurie que menaçante. Comme ils entraient, Askin était planté au milieu de la pièce, la figure toute réjouie, et s'adressait à Madame Arruega en face de lui. « Je vous remercie, chère Madame Arruega. Monsieur le commissaire m'a dit que vous aviez l'air très ennuyé, quand vous avez su que le bouton que vous avez trouvé attirait l'attention sur moi et semblait m'incriminer. Voulez-vous que nous ne nous disputions plus ?» La pauvre Madame Arruega était toute contente de ses avances. Elle regardait Askin avec de bons yeux doux, un charmant sourire aux lèvres. Askin continuait. « En signe de réconciliation, je vous apportais les bonbons.
et déjà il tendait la boîte, mais il arrêta son mouvement et s'écria
« Oh, à propos, je vous défie de reconnaître à quoi sont ces bonbons. »
Il se dépêchait de dégager la boîte du panier qui l'entourait et l'ajouta
« Allez, devinez, ouvrez la bouche, fermez les yeux. »
Poussé avait l'air furieux de cette petite scène amicale, mais si déplacée en pareille circonstance. Il s'approchait des deux interlocuteurs dans l'intention, eût-on cru, de leur imposer silence.
Et il se passa une chose inattendue.
Madame Arruega avait obéi au commandement joyeux d'Askin. Elle avait fermé les yeux, entr'ouvert la bouche. Alors Poussin, faisant sauter le couvercle de la boîte tenue par Askin, en tira un Browning et en appuya vivement le canon sur les lèvres de la dame. Un cri s'échappa de presque toutes les bouches. Madame Arruega avait reculé et les yeux agrandis par l'effroi, elle bégayait. « Qu'est-ce que ça signifie? Quelle est cette plaisanterie ?» Grace s'avança à son tour et parla assez durement.
« C'est exactement celle que vous avez faite à M. Casalta avant-hier vers minuit. »
« Parfaitement, » appuyait brutalement Poussin. Madame Letzer lui-même, s'était rapproché de Madame Arruega. Celle-ci restait muette, les yeux fixés sur Grace. Bientôt un sourire d'ironie douloureuse crispa sa bouche, puis elle se tourna vers son gendre.
« Vous ne savez pas, Letzer. »
« Votre nouveau maître d'hôtel. »
« C'est le fameux inspecteur Grey, oui. Je me doutais. »
Et il se tourna vers Grey.
« Je ne suis pas de force à lutter, monsieur Grey, et puis, je suis dégoûté. Oui, c'est moi qui ai tué Casalta. »
Grey, implacable, attendait la suite.
« Oui, » poursuivit-elle, « ce sont mes confiseries, n'est-ce pas ?» qui vous ont mis sur la voie. Ou bien encore que, vous ayant reconnu, je ne sois pas allé immédiatement le dire à mon gendre.
Et puis, j'ai commis une bêtise, celle de dire que j'avais trouvé ce bouton à l'endroit du crime quand personne ne m'avait indiqué exactement cet endroit. Cette histoire de bouton était d'ailleurs une stupidité. C'était un bouton cousu de fil blanc.
Que voulez-vous? Je n'ai pas la vocation du crime, sans doute.
Pourquoi avez-vous fait ça? Demanda sèchement Letzer.
Pourquoi?
Parce que je ne vous ai donné ma fille que pour venir dans votre maison, et d'accord avec Casalta. Nous espérions ainsi pouvoir plus facilement nous emparer de vos inventions. Elles valent cher, vos inventions. On a donné un gros prix, mais vous les cachez bien. Mes compliments.
Espionne, voleuse, meurtrière,
laissait tomber Letzer tandis que sa femme le regardait avec de grands yeux épouvantés, comme pour lui faire comprendre qu'elle n'était pas la complice de sa mère.
« Ça ne me dit pas pourquoi vous avez tué votre compère, ce Casalta ?» questionnait Poussin.
« Où ça ?»«
Parce que cet homme prétendait qu'il était plus simple pour arriver à ses fins d'épouser Hilda Letzer, sans plus rien partager avec moi. Tout mon travail, le mariage d'Anna Maria, tout devenait inutile. Et puis ?»«
Et puis ?» demandait Grey.
« Et puis je crois bien que j'aimais Casalta. »
Poussin en avait assez entendu.
« C'est bon, »
gronda-t-il. « Veuillez me suivre. »
« Certainement, »
dit-elle,
« mais je pense qu'en prison, je ne mangerai plus de bonbons. Vous permettez, un dernier ?»«
Décidément, Askin, j'aime mieux les miens que les vôtres. » Pendant qu'elle parlait, elle avait tiré un bonbon de son sac qu'elle avait porté à ses lèvres. Grey se précipita, voulant empêcher son geste.
« Trop tard, Mr. Grey. »
Elle s'affaissa, un sourire méprisant aux lèvres, et sur la moquette épaisse du tapis, son doigt traçait un mot.
« F.I. » N. Ainsi s'achève, d'une manière un peu kitsch, l'affaire Casalta par Alfred Gragnon.